Gloire à Dieu. Voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Je salue les bien-aimés de passage, en particulier Michel et Belinda, que nous connaissons depuis longtemps. Que Dieu les bénisse et les fortifie, et les autres visiteurs, s'il y en a, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous avons médité il y a quelques dimanches sur la crainte de l'Éternel, voilà, qui disparaît peu à peu sur notre terre et même dans le milieu chrétien. Et nous avons parlé de cette connaissance de Christ, de Dieu, cette connaissance qui nous amenait justement à la crainte de l'Éternel. Plus nous le connaissons et plus, eh bien, nous le respecterons. Et il y a besoin d'une crainte respectueuse au milieu de son peuple. Pour que ceux de l'extérieur voient que nous considérons Dieu comme un grand Dieu. Et ce matin, dans cette continuité, j'aimerais parler d'un thème qui n'est pas souvent abordé dans les églises, c'est la souveraineté de Dieu. Voilà, c'est un vaste sujet, c'est un sujet profond, sujet aussi à controverse, mais la Bible en parle, donc nous voulons en parler, donc de la souveraineté de Dieu. Dans ce siècle qui se caractérise de plus en plus par l'humanisme, le relativisme et l'incertitude, il semble que plus personne ne contrôle plus rien. Mais j'aimerais souligner à nouveau ce matin que Dieu et Dieu et qu'il contrôle tout. Voilà, j'aimerais lire, il y a tellement de textes, mais le psaume 93 qui est court, psaume 93, il n'a pas d'auteur, mais enfin celui qui écrit, il connaissait l'Éternel, hein. Il était inspiré. Psaume 93, l'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes, plus que la voix de grandes eaux, des eaux puissantes. Des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables, la sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Je rajouterai deux versets dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 29, et verset 11, c'est David qui parle de son Dieu. David connaissait l'Éternel, bien sûr, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Et voyez dans quel terme il en parle, 1 Chronique 29, 11. « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse, la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. » Celui qui écrit ces paroles, il connaît quelque chose de la grandeur et de la puissance de Dieu. Et David, donc, ce roi David, il écrit ces choses, il avait une connaissance profonde de Dieu, et de cette connaissance, eh bien, ça a influencé sa vie. Et même dans les moments les plus difficiles, il s'est appuyé sur l'Éternel, et il a repris courage. Voyez, la connaissance de Dieu influence notre vie, notre comportement, notre façon de parler de ça va influencer plus nous connaissons Jésus, dans, plus nous connaissons Dieu, et plus notre vie va se conformer à ces lois, parce que des lois régissent, Dieu est un Dieu qui régit l'univers. Et il y a des lois qui sont physiques, et elles sont implacables, ces lois, on ne peut pas les modifier. Mais il y a aussi des lois morales et spirituelles. Et quand nous connaissons l'Éternel, quand nous avons cette communion avec lui, eh bien ça va influencer aussi notre vie, ici-bas. Pas seulement dans l'Église, bien sûr, mais notre vie tout entière, dans toutes les sphères. Moins nous connaissons l'Éternel, et plus nous nous dirigerons selon nos pensées, nos impulsions, nos sentiments, notre caractère. Mais plus nous allons connaître l'Éternel, et c'est mon désir, comme l'apôtre Paul dira dans les Philippiens, eh bien, mon seul but, c'est de connaître Christ. Alors, je suis toujours face à ce texte, on est toujours un petit peu perplexe, on se dit, mais comment Paul peut dire « Mon désir, c'est de connaître mieux Christ ». Alors, si lui ne le connaissait pas tout à fait, à quel point j'en suis, moi? Je le connais un peu. Mais le peu que nous connaissons, c'est déjà grand. C'est déjà grand. Mais il y a tout un univers devant nous, toute une étendue de connaissances. Et le Saint-Esprit, la parole de Dieu, nous révèle qui est Christ. Vous savez, on peut avoir une Bible, la lire, la relire, et il n'y aura pas révélation, parce que vous savez que l'Écriture, les paroles, sont esprit et vie. Mais on peut lire sans que rien, parce que notre cœur doit être aussi en harmonie avec l'Écriture, avec le Saint-Esprit. Tout est lié. Ce n'est pas notre tête. Ce n'est pas parce que nous allons apprendre par cœur des passages que nous allons changer de vie. C'est Christ qui change nos vies. C'est cette révélation, et dans la révélation, nous nous prosternons, nous nous repentons, et nous lui disons, Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange. Regardez, dans le psaume 27, verset 1, j'ai relevé quelques versets comme cela, il est dit, et c'est David qui parle, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Même si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait pas de crainte. Pourquoi? Parce qu'il connaît Dieu, il connaît sa puissance, il connaît son autorité, il n'a pas peur. De qui aurais-je crainte? Et l'apôtre Paul reprend dans Romains chapitre 8, il reprend un petit peu cela, et il dit, que peuvent me faire des hommes? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Les gens qui connaissent Dieu, connaissent l'Éternel, c'est grandiose, c'est extraordinaire. Et plus je médite la parole, plus je me place devant Dieu, et plus je dis, mais Seigneur, tu es merveilleux, je connais encore un petit peu, mais Seigneur, c'est déjà tellement glorieux ce qu'on connaît, mais c'est encore beaucoup plus, notre Dieu est grand. Il est grand. David vivait ce qu'il écrivait, il vivait ce qu'il croyait, et c'est tellement important que nous vivions, nous aussi, ce que nous croyons, ce que nous proclamons, c'est important que nous puissions le vivre, parce que sinon ça ne sert à rien. Même des confessions, si nous ne vivons pas, ça ne sert à rien, il n'y a rien qui se produit. Mais Dieu n'est pas un Dieu théoricien, c'est un Dieu expérimental, il veut que nous vivions des expériences fortes avec lui. Et vous savez, ça ne dépend que de nous. L'environnement peut être hostile, mais si mon cœur est ouvert vis-à-vis de Dieu, des choses se passent. Regardez Paul et Silas, on cite souvent cet exemple, mais quel endroit plus hostile, qu'une prison, une sombre prison humide? Quel endroit plus hostile que cela? Ils auraient pu se plaindre et gémir, comme nous le faisons parfois. Mais nous ne sommes pas en prison, eux ils y étaient. Mais au lieu de gémir et de se plaindre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté, ils ont prié, et ils ont chanté les louanges du Seigneur. Et le miracle s'est produit. Dieu était avec eux dans la prison. Ça nous encourage. Merci Seigneur. L'environnement peut être hostile, mais rien n'empêche Dieu d'agir dans ma vie. La souveraineté de Dieu est un thème tellement profond, majestueux dans la Bible. Avec souveraineté sont associés les mots règne, pouvoir, royaume, puissance, autorité, majesté. Dieu est au-dessus de tout. Il peut tout. Il sait tout et il est partout. Ça nous calme un petit peu. Non, mais tout ça, c'est pour que nous puissions mettre à la juste mesure un petit peu, bien sûr, la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme. Parfois, on pense qu'on est quelque chose. Hein. On pense que les hommes sont quelque chose. Que les grands de ce monde sont quelque chose. Mais c'est Dieu qui est tout. C'est Dieu. C'est Dieu. Au fur et à mesure que nous avancerons dans la méditation, que nos genoux puissent se plier, que nos têtes puissent se courber. Car plus nous réaliserons la grandeur de Dieu, plus nous réaliserons aussi notre petitesse, nos faiblesses et notre besoin de lui. Notre besoin de lui. N'avons pas besoin d'un homme, n'avons pas besoin d'un système, n'avons pas besoin de quelqu'un de puissant, nous avons besoin de Jésus. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Jésus. Oui, nous avons besoin de lui. Et nous devons le ressentir de plus en plus il se révèle et plus nous disons, Seigneur, combien j'ai besoin de toi. Combien j'ai besoin de toi. Ma force ne suffit pas, ma volonté ne suffit pas, toutes mes sécurités ne suffisent pas. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Alors, souverain, ça signifie qu'il y a le pouvoir suprême, c'est le dictionnaire, hein, l'autorité suprême, qui en est revêtue. C'est un pouvoir qui n'est pas limité par un autre, qui n'est pas susceptible d'être contrôlé par aucun autre pouvoir. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut arrêter un acte, un événement, un dessein que Dieu a l'intention de réaliser. Rien ne peut l'arrêter. Ça me rassure, moi, que le plan de Dieu se réalisera. Peu importe tout ce qui peut bouger, le plan de Dieu se réalisera. Et ce plan, il est glorieux. Le plan de Dieu, il est glorieux. Écoutez ce que disait Job, Job 42, 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Vous savez, pour en arriver là, il a fallu qu'il traverse quand même quelques difficultés. Quand je dis quelques, c'est beaucoup de difficultés. À un moment, il dit, mais Seigneur, j'ai parlé une fois, j'ai parlé deux fois, maintenant je me tais. Il dit, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles de Dieu. Est-ce que ça ne nous arrive pas à nous? Non, peut-être pas à vous. Ça m'arrive. On parle de choses qui concernent le royaume, qui concernent Dieu. Est-ce que nous les concevons vraiment? Est-ce que nous les comprenons vraiment? Est-ce que nous comprenons la portée? Des fois, on se met même à la place de Dieu pour expliquer les choses. Mes frères et sœurs, même quelqu'un qui nous demande quoi que ce soit sur la foi, n'essayons pas d'expliquer la création, n'essayons pas d'expliquer des choses dont nous ne comprenons pas. Dites tout simplement, j'en parlais je crois à la bouilladise, dites tout simplement, comme cet aveugle, mais comment t'as-t-il guéri, explique-nous. Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Dites simplement ce que le Seigneur a fait dans votre vie et c'est largement suffisant. N'essayons pas d'expliquer la création et l'Apocalypse, mais disons simplement ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Le pardon qui nous a accordé la délivrance, l'œuvre de salut dans notre cœur, la joie, la paix de Dieu. Expliquons cela. Les gens n'ont pas besoin de comprendre l'Apocalypse, ils ont besoin d'être sauvés. Après, s'ils comprennent, si Dieu permet qu'ils comprennent l'Apocalypse dans tous les détours, merci Seigneur, mais ils ont besoin de comprendre l'amour de Dieu, dans leur cœur. Un homme de Dieu a dit un jour que la souveraineté de Dieu signifiait également la divinité de Dieu. Proclamer un Dieu souverain revient à déclarer qu'il est réellement Dieu. Reconnaître le Très-Haut et sa capacité d'accomplir tous ses desseins. La souveraineté de Dieu caractérise la totalité de Dieu. Il est souverain dans tous ses attributs. Toujours dans cette introduction, ce matin on verra juste une introduction, mais que ça puisse nous donner envie de plus lui parler, que ça puisse nous donner envie de plus lui faire confiance, que ça puisse susciter en nous de dire « mais ouais Seigneur, tiens, si tu contrôles tout, je vais essayer de moins contrôler ou de plus contrôler les choses, mais te laisser faire ». Dans l'introduction, nous pouvons nous poser bien sûr des questions, et la première des questions que nous pouvons nous poser, Dieu est-il souverain seulement dans le ciel ou également sur la terre, sur les nations, sur les hommes? Question que nous pouvons nous poser. Parfois, on a l'impression que Dieu gère l'univers, que ses lois régissent tout l'univers. Mais que sur la terre, c'est la pagaille, et chacun fait comme il veut, les nations s'agitent, on a l'impression que rien n'est contrôlé ni contrôlable. Eh bien, on va voir avec l'Écriture que Dieu contrôle tout. Dieu contrôle tout. C'est parfois la pensée que nous pouvons avoir que Dieu est au ciel, il règne, mais sur la terre, les hommes sont libres, ils font à peu près tout ce qu'ils veulent. Bien sûr que non. Dieu dirige l'univers, mais il est souverain aussi sur toute créature, et même les non-croyants. Ça nous dépasse, hein. On se dit, mais les non-croyants, ben, ils font ce qu'ils veulent. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Souvenons-nous des frères de Joseph, qui avait médité de faire du mal, qui avait médité de supprimer Joseph. Quand nous arrivons vers la fin de la Genèse, je crois que c'est au chapitre 45, et Joseph, quand il est premier ministre en Égypte, il dira à ses frères, « Vous aviez médité de faire le mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » Dieu a agi dans les circonstances pour que Joseph ne meure pas. Et que le plan de Dieu s'accomplisse. Et que Joseph devienne un moyen de bénédiction, non seulement pour sa famille, mais pour tout le peuple. Il a été un moyen de bénédiction, parce que sinon il mourrait de faim, et Joseph a été un moyen de bénédiction pour tout un peuple. Que Dieu soit béni. Nous avons aussi dans les Lamentations de Jérémie, là on va le lire ensemble, dans les Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, et nous allons voir également quelques pensées sur Lamentations, chapitre 3, on pourra lire à partir du verset 35. Quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Oui, Dieu intervient dans la vie des hommes. Il contrôle toutes choses. Il y a une certaine liberté, mais Dieu est au-dessus, et son plan s'accomplira certainement. Combien il est rassurant de placer sa confiance dans ce Dieu et Père qui règne, qui gère, qui accomplit sa volonté, même dans ce monde de ténèbres, de péché, de mal, de misère, Dieu est encore aux commandes. Il est aux commandes aussi, même dans des situations difficiles que nous traversons. Est-ce que nous croyons que la crise sanitaire échappe au regard de Dieu? On a l'impression que c'est incontrôlable, tout le monde s'affole, tout le monde s'agite. Voilà. Mais est-ce que Dieu est étranger à tout ça? Est-ce qu'il est dans son ciel et Moi, je crois que Dieu gère. Parce que la Bible me le dit. Parce que je sais que rien n'échappe au regard de Dieu. Aucune parole, aucun acte, aucun virus n'échappe au regard de Dieu. Nous devons davantage lui faire confiance. Alors j'ouvre juste une parenthèse, de faire confiance à Dieu, ça n'enlève pas les précautions que nous avons à prendre. Hein, parce que des fois, on oppose les deux. Si on fait confiance à Dieu, alors on est irresponsable. Rectifiez tout de suite. Hein. Ce n'est pas parce qu'on fait confiance à Dieu qu'on va faire les choses n'importe comment. Mais soyons prudents, les recommandations sont là, mais au-dessus de tout cela, nous faisons confiance à Dieu. Son plan de salut continuera. Il est en train de préparer son Église avec un grand E pour son retour. Jésus revient chercher son Église. Il est en train de la sanctifier, de la purifier, l'Église avec un grand E. Il y a des bouleversements, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui nous choquent et qui nous étonnent, il y a des bonnes choses. Dieu, au travers de tout cela, est en train de préparer son Église, il vient la chercher bientôt. Et c'est pour cela que, dans ces méditations, affermissons notre foi, notre fondement. Je l'ai dit, il y a déjà depuis des années, le vent va souffler de plus en plus fort. Les vents contraires vont souffler de plus en plus fort. Que devons-nous faire quand les vents soufflent fort? Nous blottir dans le Seigneur. Serrer sa parole. Que notre foi soit solide, qu'elle ne soit pas basée sur des sentiments, sur du ressenti. Non, que notre foi soit solide parce qu'elle est basée sur l'Écriture. Je crois dans ce que la Bible me dit. Je crois quand la Bible me dit que Dieu est celui, il est mon Père, il est celui qui me garde, je le crois. Quand il est dit que l'œuvre qu'il a commencée en chacun de nous, il l'affermira, pour le jour de Christ. Est-ce que nous le croyons? Mais là aussi, ce n'est pas le fait de le croire sans rien faire qui va nous garder, c'est le fait aussi d'obéir à ce qu'il nous demande. Méditer sa parole, la croire, faire des expériences avec lui, nous laisser conduire et diriger par son esprit, nous devons faire ces choses et Dieu nous gardera. L'ennemi se déchaîne, mais Dieu nous gardera. Il y avait un petit chant qui disait « Notre Dieu règne encore » dans le temps. Jamais son amour s'endort. Notre Dieu règne encore. Tous. Mais reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Amen. Il y en a qui suivent. Dans le temps, on chantait ces petits chœurs tellement beaux. Notre Dieu règne encore. Souvenons-nous que Dieu incline le cœur des rois comme un courant d'eau. Est-ce possible ça? Mais oui, Nebuchadnezzar, c'était le plus grand de toute la terre de l'époque. Oh, il était orgueilleux, hein? Très orgueilleux. Mais il a fini comme une bête dans les champs, les ongles, les cheveux poussés, il est resté pendant plusieurs années dans la nature comme ça, et un jour, il a levé les yeux, il dit « Je levais les yeux vers le ciel » et d'un coup, j'ai compris qu'il y avait un Dieu au-dessus de tout et que c'est l'Éternel. Oui, il en a fallu pour l'humilier. Mais il s'est incliné. Les genoux se sont pliés de force. mais il a reconnu. Dieu a incliné son cœur. Écoutez, Dieu incline le cœur d'un roi païen, Cyrus, et il lui dit, et il réussit à travailler son cœur et à lui dire, tu vas me bâtir la maison, le temple. Waouh, c'est fort, hein ? Un païen. Tu vas me le bâtir et tu vas payer. Ça vous étonne pas, ça ? Moi, ça m'émerveille. Je me dis, mais Dieu fait ce qu'il veut dans les pensées, dans les cœurs. Tu vas me bâtir une maison, et il l'a fait. Et même, Dieu a appelé Cyrus mon serviteur. Ça dépasse notre entendement, notre imagination. Tu es mon serviteur, Cyrus, un roi païen. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Comme s'il n'était pas assez dur, Dieu l'a endurci encore. Pourquoi ? Pour faire éclater sa gloire, pour que le miracle éclate encore plus. Mais Dieu agit comme il veut, quand il veut, sur... Il est souverain. Que l'on puisse, eh bien, réfléchir à ces choses et nous dire, mais qui je suis, moi, pour penser que je vais révolutionner la terre et ses environs ? Il nous faut beaucoup d'humilité. Il faut que nos genoux se plient devant le Seigneur. On pense y être pour beaucoup, faire des choses qui vont impressionner, même impressionner Dieu, mais... Quelle est la part de responsabilité de l'homme, l'exercice de son libre arbitre ? Là aussi, on pense à tort que l'on a un pouvoir extraordinaire, que l'on fait ce que l'on veut, que l'on dit ce que l'on veut. Non. Face à la souveraineté de Dieu, le pouvoir de l'homme reste tellement limité. Tellement limité. Et on le verra, pas ce matin, mais la souveraineté de Dieu même dans le salut. On le verra, c'est des thèmes à controverse, mais si on cite les versets, non, vous ne me lapiderez pas si je cite simplement les versets, c'est écrit. Voilà. La souveraineté de Dieu. Il y a tellement de... En tant que croyant, on devrait s'incliner, se prosterner, être beaucoup plus humble, le servir avec respect, l'honorer, l'honorer. Écoutez, dans Luc chapitre 12, verset 16, on ne va pas tout lire, mais il nous est dit qu'il y avait les récoltes d'un homme riche qui ont beaucoup rapporté. Et qu'est-ce qu'il se disait, lui ? Il se disait, ben voilà, maintenant que ça a beaucoup rapporté, je construirai d'autres greniers. Ah, pour engranger encore et encore. Et je dirai à mon âme, mange, bois, réjouis-toi. Mon âme, réjouis-toi. Et la phrase qui arrive, et Jésus le dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as amassé, pour qui ça sera ? Vous voyez, des fois on pense qu'on est non seulement tout-puissant, mais même éternel. On ne le proclame pas, bien sûr, mais on pense que... On va rester, mais Dieu lui dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et l'apôtre, dans l'épître de Jacques, il est bien dit à un moment, ils disent, nous ferons, nous trafiquerons, nous partirons une année, nous ferons ceci, nous ferons cela. Et Jacques souligne, il dit, mais si Dieu le veut, si Dieu le veut. Les hommes parlent avec tant d'arrogance, tant de suffisance, ils ne savent pas que Dieu est souverain, même sur leur vie. C'est lui qui donne la vie et c'est lui qui la reprend. Un jour, un pasteur que je connais était dans un certain pays et il demande à un homme de Dieu qui était là, il arrive à le voir dans son église, une grande église, donc il arrive à le voir. Et il lui dit, mais dans vos projets, est-ce qu'il y aurait la France ? Il dit, oh non, non, je suis déjà venu une fois, je cherche des pays plus humbles. Bon, il était déjà venu une fois. Hein. Que Dieu nous aide. Maintenant, nous nous posons la question, c'est juste l'introduction ce matin, nous nous posons aussi la question par rapport à ce verset qui nous dit que le monde entier est sous la domination de Satan, le monde gît sous la domination du malin. Alors ça, on se dit, mais si c'est le malin qui régit, qui domine, alors quelle est la place de Dieu ? Il est vrai qu'avec le péché est aussi entré, eh bien, le désordre, la rébellion. Avec le péché est entré l'orgueil, la suffisance et tout ce que nous voyons. Et c'est vrai que le diable a une certaine autorité pour l'instant. Il sait qu'il n'en a plus pour longtemps, mais pour l'instant, il a une certaine autorité sur la terre. Mais cette autorité, c'est celle que Dieu lui a conférée, pas plus. Dieu est encore au-dessus de toute créature céleste, de toute créature terrestre, mais aussi de toute créature démoniaque, de Satan. Dieu est au-dessus de Satan. Vous le croyez qu'il ne fait pas ce qu'il veut ? Dieu est au-dessus. Il lui dit jusque-là, d'ailleurs je crois que je l'ai noté, oui, l'exemple de Job. Quand vous lisez le livre de Job, Job a été livré par Dieu entre les mains de Satan. C'est étonnant ça. Job a été livré par Dieu entre les mains de Satan. Nous l'avons au chapitre 1er, on ne va pas le lire, mais non à cause de son péché, mais à cause de son intégrité, de sa droiture. Job craignait l'Éternel et se détournait du mal. Waouh ! Et Dieu lui dit, c'est comme un défi extraordinaire. Dieu le livre entre les mains de Satan. Mais Dieu contrôle la situation. Le diable négocie. Satan négocie, il lui dit, voilà, touche à tous ses biens, tout ça. Dieu lui accorde. Vous imaginez, Job, il ne comprenait pas tout ce qui lui arrivait. Nous, on le lit, on sait aujourd'hui que c'est un défi, quelque chose de grand, mais Job, lui, ne le savait pas. Et plus loin, il est dit dans le chapitre 2, verset 12, non, chapitre 1, verset 12 déjà, « L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Mais Satan n'était pas assez, non, rassasié, il lui dit, et Dieu répond dans Job, chapitre 2, verset 6, « L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Vous voyez, Dieu contrôle, même Satan, ça nous dépasse, hein. Vous savez que Satan ne fait pas ce qu'il veut, et encore moins sur les chrétiens. Dieu est au-dessus, il le dompte, il lui laisse certaines latitudes, et il lui dit, mais touche pas à sa vie. Et en fait, c'est ce qui s'est produit. Job a retrouvé la santé et le double de tout ce qu'il avait avant. Alors, dans sa souveraineté, Dieu contrôle tout. Nous verrons ensemble l'idée même de royaume, l'idée de royauté, de souverain. Ça s'établit jusque dans le Nouveau Testament parce que Dieu, dans sa souveraineté, a établi Jésus comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors vous allez dire, aujourd'hui, on ne le voit pas encore comme cela. Il l'est. Mais il est établi, et il établit son royaume, on le verra plus en détail, mais il établit son royaume dans le cœur des croyants. Nous n'appartenons pas ni à ce monde, ni aux ténèbres. Le diable ne nous touche pas, parce que Jésus est maître et seigneur dans notre vie. Mais pour l'instant, c'est dans nos cœurs. Mais bientôt, Jésus va écraser Satan sous ses pieds. Et l'impie, par le souffle de sa bouche, il disparaîtra. Bientôt, ça va se produire. Et tous ceux qui marchent avec le Seigneur, sincèrement, tous ceux qui marchent avec Dieu, eh bien, ils seront enlevés. Et nous régnerons avec lui. Et nous régnerons avec lui pour 1000 ans. Alors j'aimerais souligner, le temps passe vite, j'aimerais souligner également Juste, ça c'est juste, j'effleure un petit peu, je ne peux pas rentrer, mais il faut établir ces choses avant d'aller plus loin. Mais j'aimerais souligner ce passage où Jean-Baptiste, j'en ai parlé deux mots à la Bouilladis, mais où Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 11, verset 3, de sa prison, il était perplexe, il était dans le doute. Et on est quand même étonné, Jean-Baptiste, lui qui a préparé, aplani les chemins du Seigneur, lui qui a été l'envoyé de Dieu, c'est la voix qui criait dans le désert, qui annonçait la venue, il dira lui-même, celui qui vient après moi, il est plus grand que moi, je ne suis pas capable de délier la courroie de ses souliers, j'arrive même pas à la semelle, il est plus grand que moi, moi je vous baptise d'eau, je fais ce que Dieu m'a demandé, mais lui il vous baptisera du Saint-Esprit. Et ce même Jean-Baptiste se retrouve dans la prison, et il est décontenancé. Les circonstances ne vont pas avec ses pensées. Et vous savez, quand les circonstances ne vont pas avec ce que nous avions prévu, eh bien nous sommes peut-être dans le doute ou décontenancés. Et lui, il l'était. Et à un moment, il dit même à ses disciples, « Allez voir Jésus et demandez-lui, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Waouh ! Vous voyez jusqu'où ça peut aller le doute à certains moments. Et Jésus dit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux sont guéris, etc., etc. Les morts ressuscitent. En d'autres termes, ce que Jésus est en train de faire, personne d'autre ne peut le faire. Il est le Sauveur incontestable, le Seigneur. Personne d'autre ne peut faire les œuvres que Jésus a faites. Ressusciter les morts. D'ailleurs, Nicodème va le reconnaître, il va dire, mais personne ne fait les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Mais voyez, devons-nous en attendre un autre ? Ça me pose, et je terminerai par là, mais devons-nous en attendre un autre ? On attend toujours quelque chose, ou quelqu'un. Faisons attention. Il faut que Christ nous suffise pleinement. Nous n'avons personne à attendre, aucun homme, aucun ministère, aucun ou quelque chose qui va nous faire du bien, qui va nous délivrer, qui va nous apporter la solution. Ce monde est en train d'attendre l'homme providentiel, l'homme Dieu. Le monde attend quelqu'un. Et ce quelqu'un est en train de façonner les esprits de toute cette population, au travers de tous les moyens qu'il a, moderne, il est en train de façonner les esprits. N'entrons jamais dans un système où nous attendons quelque chose ou quelqu'un, un homme providentiel, un ministère providentiel. N'attendons pas un ministère providentiel. Jésus nous suffit pleinement. Jésus nous suffit pleinement. Nous avons en lui tout ce dont nous avons besoin. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Si nous avons quelqu'un à chercher, entrons dans la chambre, fermons la porte et cherchons Jésus. Il nous suffit pleinement. N'ayons jamais l'idée que quelque chose va se produire ou quelqu'un, un homme providentiel. Le monde attend cet homme providentiel et il va venir. Et il est déjà dans le monde. Et il va se manifester. Il va se manifester dans le monde. Un homme qui aura un certain pouvoir. Il fera même des miracles. Ouh ! Alors comment ça va ? Comment on va tenir le coup si on nous dit « il y a des miracles là ?» Jésus l'a dit, mais quand on vous dira « il est ici ou il est là », n'y allez pas. Ne courez pas à l'Orient, à l'Occident. Jésus l'a dit. C'est une séduction. D'ailleurs, dans Matthieu 24, quand Jésus commence son discours sur les derniers temps, la première chose qu'il dit, « prenez garde que personne ne vous séduise ». Si vous avez Jésus dans votre cœur, vous êtes heureux. Si vous avez Jésus dans votre cœur, vous avez tout avec lui. Si vous l'avez pleinement, vous êtes doublement heureux et vous êtes dans la paix, dans la joie, si vous avez Jésus. Les circonstances ne peuvent rien contre Jésus qui règne et qui vit dans un cœur. Si vous n'avez pas Jésus, acceptez-le ce matin, si vous n'avez pas vraiment Jésus, vous êtes vulnérable. Parce que les temps vont devenir de plus en plus difficiles et le Seigneur est en train de préparer son Église. La souveraineté de Dieu, et je termine, oui, je disais, si Christ ne nous suffit pas, alors il y aura de la rébellion, il y aura ces choses dans notre cœur, mais que Christ puisse régner pleinement dans notre cœur. La souveraineté de Dieu devrait nous rassurer pleinement. Ce que Dieu a écrit dans sa parole va se réaliser à la lettre. Jésus va revenir chercher son Église. C'est sûr et c'est certain. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Frères et sœurs, c'est très, très, très sérieux. Est-ce que nous sommes prêts? Je ne dis pas ce que nous croyons. Est-ce que nous venons à l'Église? Est-ce que nous lisons la Bible? Est-ce que nous prions? Je ne dis pas ça. Je dis, est-ce que nous sommes prêts pour le retour du Seigneur? Parce qu'il n'y aura qu'un voyage. Un seul. Un homme de Dieu avait fait une prédication. Et bon, bien sûr, je ne dis pas, mais il avait pris la parabole des terrains. Il avait dit, voyez, dans la parabole des terrains, il n'y a que 25% qui ont produit du fruit à maturité. Trois autres terrains, ceux du chemin, ont cru pour un temps, mais comme il disait, à la sortie de l'église, la parole avait disparu. Les autres ont cru pour un temps, ils se sont même réjouis, des mois, peut-être des années, et puis tout à coup, les séductions, les richesses, les problèmes, les difficultés ont pris le dessus, ont étouffé cette parole. Un seul terrain, ça fait 25%, non? 4, il n'y en a qu'un, c'est ça? 1 sur 4, ça fait 25%. C'est effrayant. Seigneur, pas ici, qui n'est pas 25%, mais plus, plus. Mais ce n'est pas nous qui comptabilisons, c'est Dieu. Mais pour dire qu'il y en a beaucoup qui auront cru pour un temps, mais moi, je ne veux pas croire pour un temps. Je ne veux pas me consacrer pour un temps, mais je veux me consacrer, le servir, l'honorer du mieux que je peux, du plus que je peux, jusqu'à son retour. Que Dieu nous aide, donc c'est une introduction sur la souveraineté de Dieu. Il y a bien d'autres domaines que nous verrons ensemble, mais ça doit nous rassurer que Dieu sait tout, qu'il peut tout, qu'il gère tout. Il gère ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas étranger à Dieu. Il gère aussi la situation qu'il y a dans notre monde. Son plan est en train de s'accomplir. Malgré tout, on a l'impression que tout se déchaîne, que les hommes ne peuvent rien, donc Dieu est lointain, il ne s'occupe pas. Dieu s'occupe. Dieu s'occupe. Dieu gère. Et à un moment donné, quand Dieu dit stop, quand Dieu dit ça y est, là, terminé, il dit à la mer, jusqu'ici, mais pas plus. Là, il y a la plage. L'eau, jusqu'ici, pas plus. Jésus a dit à la mer et au vent, silence, tais-toi, et ça s'est rentré dans l'ordre. Hein. Il gère les éléments, il gère tout. Mais on est fiers de notre Dieu. On est heureux de lui appartenir. Et on se dit, Seigneur, mais je crois en un Dieu tel que toi, mais c'est un privilège immense que de placer ma confiance dans un Dieu tel que toi. Je n'ai plus à m'inquiéter, parce que Dieu peut tout. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci parce que, Seigneur, nous ne voulons pas que la crainte s'empare de nos cœurs, mais nous voulons toujours placer notre confiance en toi. Nous voulons scruter les Écritures et comprendre qui tu es, comprendre ton plan, ce que tu es en train de faire, même en ce moment, Seigneur. Ah, Seigneur, révèle-toi à nous, révèle-nous ta parole, Seigneur. Comme le psalmiste te le demandait, la révélation de tes paroles éclaire, elle rend intelligent. Seigneur, fais-nous grâce dans ce siècle, dans ces moments que nous vivons. Fais-nous grâce, Seigneur, que l'on puisse te connaître et te connaître toujours plus. Seigneur, afin que notre foi soit affermie, que notre confiance soit totale, que notre paix dépasse toute intelligence. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus. Fais grâce. Amen.